Ce qui m'a intéressé en tant qu'historien sur ces questions énergétiques, c'est de voir à quel point l'histoire était constamment instrumentalisée pour annoncer le futur. Vous avez des personnes importantes dans le domaine politique qui vous expliquent que par le passé, on a fait des transitions énergétiques et maintenant, il faut faire une nouvelle transition énergétique. On voit bien ce genre d'instrumentalisation de l'histoire à travers cette trope qu'on retrouve souvent dans des discours qui est de dire ce qu'il faut faire maintenant, c'est une nouvelle révolution industrielle. Et moi, ce qui me frappe, c'est sincèrement comment on peut dire des choses aussi idiotes quand on est quelqu'un d'intelligent a priori. John Kerry, j'ai aucun doute, il n'est pas stupide. Il s'intéresse aux questions de changement climatique depuis les années 1980. Vous connaissez peut-être John Kerry, c'était l'envoyé américain sur la question de changement climatique. Candidat malheureux à l'élection présidentielle américaine. Mais on a la même chose en France par des gens qui, a priori, sont tout à fait raisonnables. Jean Pisani-Ferry, un économiste important, expliquait qu'il fallait faire comme la première révolution industrielle, mais en plus rapide. Agnès Pannier-Runacher reprenait cette idée. Et en fait, comment ça se fait qu'une histoire aussi radicalement fausse de l'énergie et de la matière puisse être comme ça, avancée, sans qu'on dise, mais attendez, vous dites des choses très, très, très bizarres. Alors, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on a cette instrumentalisation de l'histoire parmi les experts. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, qui date de 2022 maintenant. Dans ce groupe 3, il est principalement composé d'économistes et de modélisateurs, et ils essayent d'imaginer des scénarios net zéro, ce qui nous amènerait à la neutralité carbone, ce qui permet vraiment d'arrêter et de stopper le changement climatique. Et vous avez des phrases du type « Les transitions énergétiques peuvent avoir lieu plus vite que par le passé ». Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase ? Sincèrement, quand ce que vous venez de dire, tout le monde le sait, on n'a jamais consommé autant de pétrole, de charbon, de gaz et même de bois. De nos jours, le bois énergie, c'est deux fois le nucléaire. Donc moi, je veux bien qu'on parle beaucoup de nucléaire, mais il faut bien prendre en compte ce fait fondamental qu'on vit avec des sources d'énergie anciennes à l'échelle mondiale, pas du tout avec le nucléaire. Alors, ce que je vous dis à propos de l'énergie, en fait, c'est vrai pour toutes les matières premières, ou presque toutes les matières premières. J'ai vu que le thème de la conférence était sur la performance, en fait. Donc, c'est vraiment une notion clé, la notion clé qui nous permet de comprendre pourquoi on va pas... Ce n'est pas qu'une question technologique, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous avez entendu parler de l'effet rebond, ou le paradoxe de Jevons ? Alors, petit rappel historique et pédagogique, Jevons, c'est un économiste anglais qui montre que bien que les machines à vapeur deviennent de plus en plus efficaces, il écrit dans les années 1960, deviennent de plus en plus efficaces, et donc consomment moins de charbon par unité de travail fournie, eh ben, l'Angleterre consomme de plus en plus de charbon. Alors, le paradoxe s'explique très facilement. En fait, plus votre machine à vapeur est efficace, plus c'est rentable d'utiliser une machine à vapeur, plus c'est économique. Et donc, plus on s'équipe de machines à vapeur. Et donc, ça explique assez facilement ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, cet effet rebond, il se retrouve dans toutes les dimensions. L'électronique est sans doute le meilleur exemple contemporain. Les ordinateurs, les microprocesseurs contemporains sont infiniment plus efficaces que les microprocesseurs des années 1960. Ce que j'ai dans ma poche est beaucoup plus puissant que les supercalculateurs qui utilisaient l'armée américaine et qui prenaient des salles plus grandes que celle-ci. Donc, il y a eu un énorme effet rebond. Parce que, en fait, vu que le microprocesseur est très efficace, on utilise de plus en plus. On en met partout, y compris dans des montres, alors qu'on pouvait quand même lire l'heure sans avoir besoin d'un supercalculateur, etc., etc. L'intelligence artificielle est un très bon exemple, si vous voulez, d'effet rebond. Donc, l'effet rebond, c'est quelque chose d'absolument structurel, et ça explique ces courbes-là, qui sont dans un article à paraître prochainement. J'ai pris simplement toutes les matières premières, enfin les 60 principales matières premières, et j'ai regardé ce qui diminue et ce qui augmente. Alors, quasiment tout ne fait qu'augmenter de manière linéaire. C'est-à-dire on est plutôt sur des croissances linéaires, on n'est plus sur des croissances exponentielles. On est même des fois dans des formes de stabilisation, par exemple pour le charbon. Alors c'est vrai qu'on consomme plus de charbon en 2025 qu'en 2024, mais on n'est quand même pas sur des croissances rapides, on est plutôt sur des formes de plateau. Moi, ce qui me frappe, c'est que la discussion sur le changement climatique et sur les questions environnementales en général, elle est concentrée sur l'innovation technologique. Il y a un constat très simple à faire, c'est que d'un point de vue historique, on a été formidablement innovants au 19e, au 20e et encore au 21e siècle, et malgré toutes ces innovations, les consommations matérielles ne font que croître. D'accord ? Donc, vraiment, une chose qu'il faut retenir, mais hyper basique, mais c'est un point tellement basique que j'ai honte de le faire, mais ce qui est bizarre, c'est que plein de gens ne le font pas, ne font pas, c'est que les dynamiques technologiques ne sont pas les mêmes que les dynamiques matérielles. Technologiquement, même si on a tendance à surestimer la destruction créative, c'est vrai que technologiquement, il y a des technologies qui deviennent obsolètes. Chez vous, vous avez a priori plus de téléphone fixe qui est alimenté par un câble en cuivre. C'est peu probable. Donc il y a bien des technologies qui deviennent obsolètes. Mais les matières, elles, ne sont jamais obsolètes. C'est-à-dire, malgré toutes les innovations, on consomme de plus en plus de toutes les matières premières. Alors, sur cette règle complètement générale, il y a quelques exceptions, et elles sont intéressantes. Alors, l'exception, la première exception, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers depuis les années 1990. C'est lié à la compétition avec les fibres synthétiques. Mais ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'environnement, qu'on utilise des fibres synthétiques plutôt que de la laine de mouton. On a deux autres contre-exemples qui ont un rapport avec notre affaire, c'est le mercure et l'amiante, où là, on a eu des baisses drastiques. Donc, le changement est possible. Mais ces baisses drastiques, elles n'ont pas eu lieu parce que des super nouveaux matériaux ont remplacé l'amiante et le mercure. Ça a eu lieu parce qu'il y a eu des interdictions à l'échelle mondiale. L'amiante était très dangereuse, et plus encore le mercure, et donc on a eu des conventions internationales qui interdisent ces substances-là. Même le plomb, qui est dangereux, et le plomb, on a interdit les usages dispersifs dans la peinture utilisait du blanc de plomb, on a utilisé l'usage dispersif évidemment comme additif dans les carburants, même le plomb, la consommation mondiale de plomb, elle continue de croître tout doucement, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'engins motorisés qui utilisent des batteries au plomb. Donc vraiment, le point de base qu'il faut retenir, je crois, c'est que malgré toutes ces technologies hyper performantes, évidemment qu'il y a plein de progrès technologiques. Mon argument, ce n'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas de progrès technologiques. Au contraire, il y a énormément de progrès technologiques, mais ces progrès technologiques n'enclenchent pas une diminution des consommations matérielles et certainement pas à l'échelle mondiale. Et cette confusion assez troublante, de manière assez troublante, c'est ce que les experts du groupe 3 du GIEC font. En fait, quand ils vous disent « Ah, il est transition énergétique par le passé », en fait, ils parlent de technologie. Effectivement, il y a eu des transformations technologiques. En France, on n'utilise quasiment plus de charbon pour faire de l'électricité. On utilise des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques, effectivement. Donc il y a des transformations technologiques, mais ce ne sont pas des transitions énergétiques. C'est quelque chose de différent. Alors, c'est vrai qu'aussi les historiens de l'énergie ont eu tendance à raconter l'histoire de l'énergie comme une grande fresque de transition énergétique. Vous prenez des livres classiques d'histoire de l'énergie, ils vous racontent en général le bois au XVIIIe siècle, le charbon avec la machine à vapeur au XIXe siècle, et le pétrole et le moteur à explosion au XXe siècle. C'est une histoire pédagogique, mais qui est aussi idéologique. Pour une raison très simple, on va surtout vous parler dans vos cours d'histoire de charbon au XIXe siècle, pour la révolution industrielle, l'Angleterre, etc. etc. Quand est-ce qu'on consomme beaucoup de charbon? Vous l'avez dit, c'est maintenant. La moitié du charbon a été consommée depuis 1950. En fait, si on veut faire une histoire un peu rigoureuse du charbon, il faut parler de la fin du XXe siècle. Il faut beaucoup parler de l'Asie, d'ailleurs. 95% du charbon a été sorti après 1900. Et pourtant, franchement, la majorité de l'historiographie sur le charbon, c'est plutôt avant 1900. Donc, il y a vraiment un biais majeur, c'est qu'on se focalise sur le nouveau à chaque époque. Et ça, c'est un biais qu'on retrouve à la fois dans l'historiographie, mais qui reflète en fait une approche culturelle commune sur les techniques. C'est que de nos jours, on se focalise sur le nouveau. En ce moment, on va vous parler que de IA. Ce n'est pas pour dire que l'IA, ce n'est pas important, mais il y a plein d'autres technologies, évidemment, qui progressent et qui sont beaucoup plus importantes pour notre survie. Donc le premier point qui est assez évident, c'est que les énergies s'additionnent. Elles ne sont pas du tout dans des dynamiques de substitution. Au cours du 19e et du 20e siècle, on consomme de plus en plus de force hydraulique, on consomme de plus en plus de vent. La révolution industrielle, elle dépend aussi du vent. Tout simplement parce que tout le commerce maritime dépend du vent jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les éoliennes s'industrialisent en même temps que le charbon, en fait, et grâce au charbon, d'une certaine manière, avec plein d'éoliennes industrielles à la fin du XIXe siècle qui ont déjà un rôle économique important, en particulier dans l'agriculture, pour pomper de l'eau. Et puis une énergie qui ne fait absolument que croître, c'est la force musculaire humaine. Il y a de plus en plus d'humains qui sont de plus en plus, mieux en mieux nourris et qui utilisent des machines de plus en plus, des outils de plus en plus efficaces qui réduisent la friction. Donc en termes de services énergétiques rendus, évidemment, le muscle humain est de plus en plus important en termes de valeur absolue. Cette idée qu'il y aurait une obsolescence du muscle du fait des moteurs est une erreur. En fait, muscle et moteur croissent ensemble. Grâce aux moteurs, on produit plus de biomasse qui permettent d'alimenter plus d'humains. Voilà. C'est ça la dynamique réelle. Donc, vous trouverez souvent dans ces discours sur la transition énergétique des courbes très simplistes. Vous avez le nombre de chevaux qui s'effondre dans les années 1950 aux États-Unis, dans les pays riches en général, et puis le nombre de moteurs, de tracteurs et de voitures qui croît très rapidement avec une belle courbe en X qui se croise. Et ils disent, regardez, il y a eu des transitions. Et ça, c'est vraiment une vision fallacieuse, en fait. C'est encore une vision centrée sur les techniques. L'énergie sous-jacente, la biomasse, elle, elle ne fait absolument que croître. Alors, mon point va un peu au-delà de l'aspect effet rebond et addition énergétique, c'est d'insister sur le fait qu'il ne faut pas considérer les énergies comme des entités séparées. C'est un simplisme. Quand on dit charbon, quand on dit pétrole, quand on dit gaz, quand on dit solaire, quand on dit éolien, en fait, ce mot-là ne résume pas du tout l'énorme complexité matérielle de ce que c'est que produire du charbon, du gaz, du pétrole, de l'éolien, etc. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un exemple assez facile, c'est le cas du charbon. L'idée qu'il y aurait une transition du bois au charbon au XIXe siècle est clairement fausse pour une raison toute simple, c'est qu'il faut énormément de bois pour extraire du charbon. À tel point que l'Angleterre, au XXe siècle, jusque dans les années 1960, consomme plus de bois uniquement sous forme d'étais, pour ces bois-là qui servent à boiser les galeries des mines, pour éviter que les mines de charbon s'effondrent. L'Angleterre consomme plus de bois sous forme d'étais qu'elle en brûlait au XVIIIe siècle. Donc tout le blabla de la révolution industrielle comme une transition énergétique qui a permis de sauver les forêts, vous oubliez ça, c'est complètement faux. C'est vraiment un point important. C'est pour ça que John Kerry et d'autres disent « Ah oui, il faut faire la même chose que la révolution industrielle. » Ah non, surtout pas, il ne faut surtout pas du tout faire quelque chose d'équivalent, parce que là, on est très mal parti. Bon. Donc, vraiment, sans bois abondant, les pays industriels au XXe siècle, les pays riches, auraient eu très très peu de charbon, donc très peu de vapeur, très peu d'acier, pas de chemin de fer, pas d'industrialisation. Le bois n'est pas secondaire dans l'industrialisation. Il est absolument primordial. La même idée s'applique sur le pétrole. L'idée qu'il y aurait une transition du charbon au pétrole, alors c'est vrai en relatif, hein, le pétrole gagne en poids relatif par rapport au charbon dans les années 1950-60, c'est moins vrai à partir des années 80 en vérité, mais de fait, sans charbon, il n'y aurait pas de pétrole. Parce que tout le pétrole, toute l'économie pétrolière dépend de l'acier. Le pétrole, il est pompé avec des tubes en acier, il est raffiné dans des raffineries en acier, il est transporté dans des bateaux en acier, il est brûlé dans des moteurs en acier qui font avancer des machines en acier. Et cet acier, il est produit en très grande majorité avec du charbon. 75% de l'acier est fait avec du charbon et ça consomme 1 milliard de tonnes de charbon, l'industrie sidérurgique mondiale actuellement. Donc par exemple, en 1900, l'économie mondiale consommait 1 milliard de tonnes de charbon. En 2000, rien que la sidérurgie mondiale consomme 1 milliard de tonnes de charbon. Donc, vraiment penser le pétrole et le charbon comme profondément reliés entre elles, ces deux énergies qui s'épaulent et qui s'entraident. Puis, à partir du moment où vous avez du pétrole, vous avez plus de tout. Donc, en fait, tout se met à croître, en particulier toutes les matières pondéreuses, parce que vous pouvez transporter facilement les matières pondéreuses. Et ça, ça change tout. Donc, grâce au pétrole, le charbon se met à coûter moins cher, parce que vous pouvez le transporter grâce à des camions à benne levante, par exemple. Avant ce genre de technologie, le charbon, on en avait beaucoup où ? Sur les canaux, près des canaux, ou près des voies de chemin de fer. Mais sinon, le charbon coûtait très cher. À partir du moment où vous pouvez transporter le charbon, évidemment, le prix du charbon diminue drastiquement. Et puis, grâce au pétrole, vous avez aussi accès à de plus en plus de bois. C'est absolument évident. Grâce au pétrole, vous avez des tronçonneuses qui réduisent le coût d'extraction du bois. Grâce au pétrole, vous avez des camions qui transportent le bois. Donc, grâce au pétrole, on a eu une explosion du bois énergie dans le monde. Le bois énergie a doublé depuis les années 1960. En Afrique subsaharienne, ça a sextuplé le. Alors, c'est pas le bois, c'est le charbon de bois, mais c'est la même chose que le bois énergie pour une grande part en fait de l'Afrique subsaharienne. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants qui cuisinent au bois. Kinshasa, c'est 2,3 millions de tonnes de charbon de bois par an. Alors, charbon de bois, ça transforme du bois en charbon de bois, et on perd beaucoup d'énergie au passage. Donc, en gros, il faut multiplier par 6 pour avoir la quantité de bois. Vous faites 2,3 fois 6, c'est plus que le bois que brûlait, par exemple, la France à la fin du 19e siècle. Donc, en fait, le bois énergie est une énergie... C'est nouveau, quoi, qu'on en consomme autant. C'est pas du tout quelque chose qui serait en train de devenir obsolète. Pas du tout. À part dans des visions complètement éthérées qui sont fondées sur l'idée de progrès technologique qui rend obsolète les choses précédentes. Alors... Pour conclure cette première partie, après j'aurai une deuxième partie, je vais vous donner quelques images que je trouve frappantes qui montrent bien en fait, le biais important qu'il y a dans nos discours sur la transition énergétique. Vous avez devant vous la plus grande, alors c'est un champ d'éolien, il y en a 11, c'est le plus grand champ d'éolien flottant au monde. Ce sont des énormes éoliennes qui font 200 mètres de haut, qui ne sont pas ancrées dans le sol de la mer du Nord. Ça se situe au nord de la mer du Nord, entre Bergen et les îles Shetland. Les pieds des éoliennes ne sont pas ancrés dans le sol parce que la mer est trop profonde et ils flottent sur des flotteurs avec une quille de 10 000 tonnes. Donc il y en a 11 comme ça. Enfin, on ne parle pas de grosses infrastructures. Plus grand champ éolien flottant au monde, la particularité de ce champ éolien, c'est qu'il n'est pas relié au continent. Pourquoi ? Parce que, en fait, il sert à alimenter ce que vous voyez derrière. Et ce que vous voyez derrière, c'est une plateforme pétrolière. Donc, dans ce cas précis, les éoliennes, vraiment le symbole de la transition énergétique, ça sert en fait à extraire plus de pétrole. Et c'est pas, en fait, on se dit, tiens, c'est bizarre. En fait, c'est super banal. Toutes les plateformes pétrolières, ou presque toutes les plateformes pétrolières et gazières norvégiennes, sont maintenant alimentées avec de l'hydroélectricité, puisque de plus en plus, on électrifie les installations d'extraction de charbon, de pétrole et de gaz, parce que c'est beaucoup plus efficace, l'électricité. Bien sûr, l'électricité, c'est merveilleux. Pour revenir sur cette affaire de performance, ce que j'ai appelé effet rebond, au XXe siècle, on pourrait appeler ça effet électrique. En fait, l'électricité, c'est tellement performant que ça permet une expansion absolument colossale. Je dévide mon propos, mais de nos jours, on rajoute chaque année 1 milliard de moteurs électriques par an. De gros moteurs, pas de petits moteurs. Je ne parle pas des moteurs de brosse à dents. Mais en fait, les moteurs électriques, il y en a absolument partout. Quelqu'un qui viendrait de 1900 serait absolument effaré par la quantité de puissance mécanique qu'il y a dans le monde actuellement. D'accord ? Alors, le résultat, c'est que de nos jours, les moteurs électriques consomment, selon l'AIE, 40% de l'électricité mondiale, ce qui représente 6 gigatonnes de CO2 par an. C'est plus que les émissions du monde entier en 1900, quand on n'avait pas encore de moteur électrique et qu'on avait des bonnes vieilles machines à vapeur qui polluaient énormément. D'accord ? Donc vraiment, l'électricité, l'idée qu'on va résoudre tout le problème par l'électrification, je veux bien, mais ça fait très longtemps qu'on électrifie et que je sache, les émissions n'ont pas diminué. Il faut quand même rappeler ces évidences de base, quoi. Bon. Alors, donc, pour revenir sur le cas de Hywind Tampen, ce champ éolien en mer du Nord, en fait, c'est très banal. Il y a de plus en plus d'électrons verts qui servent à extraire des énergies grises. Alors, un autre exemple assez spectaculaire, c'est à Oman, des immenses serres remplies de miroirs qui produisent 1 gigawatt-heure de ce qu'ils appellent de la vapeur solaire, solar steam. Alors ça sonne bien, hein, solar steam, mais cette solar steam, ça sert en fait à produire donc de la vapeur qui sert à liquéfier un pétrole très visqueux, donc difficile à extraire, et donc à extraire plus de pétrole. D'accord ? En mer du Nord, l'électrification, alors évidemment que ça réduit les émissions opérationnelles des plateformes, mais qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de faire des choses formidables qu'on appelle des stations sous-marines de pompage. Vous installez des énormes pompes au fond de la mer qui vont injecter des gaz dans les puits pétroliers et gaziers pour extraire davantage de pétrole et de gaz. Donc en fait, l'électrification, ça permet de prolonger le gaz et le pétrole de la mer du Nord. D'accord ? Donc ce qu'on vit en mer du Nord, ce n'est pas du tout une transition du pétrole à l'éolien. C'est beaucoup plus compliqué que cela. D'accord ? Bon. Alors une fois qu'on raconte l'histoire de l'énergie comme ça, comment ça se fait que cette affaire de transition énergétique soit devenue aussi consensuelle ? Tout le monde dit, ah oui, on a un problème de changement climatique, il faut limiter le changement à 2 degrés, pour ça il faut entièrement décarboner l'économie mondiale d'ici 2050 à 2060, pas de problème, on va faire une transition énergétique. Enfin, comment ça se fait qu'on ait eu cette sorte d'hallucination collective, quoi ? Alors, la réponse, c'est ça vient vraiment de l'histoire de cette idée de transition énergétique, ça vient de l'histoire de cette notion qui, au départ, est tout à fait marginale. C'est-à-dire pendant longtemps, au XXe siècle, on ne parle jamais de transition énergétique. On voit plutôt le futur de l'énergie comme ça. Ça, c'est un travail de prospective des années 70. Vous voyez, pour l'expert, tout va croître. Le charbon va croître, le nucléaire va croître, le solaire va croître. On n'imagine pas un immense basculement dans le futur. On pense plutôt le futur de l'énergie comme un présent agrandi. Il y a de la place pour tout le monde. Ça ne sert à rien de se disputer entre renouvelables et nucléaires. De toute manière, tout sera plus, quoi. Voilà. Alors, il y a un groupe de scientifiques qui va se mettre à réfléchir à l'énergie d'une manière assez originale, ce sont les savants atomistes américains, qui sont tous passés par le projet Manhattan, vous savez, ce grand projet qui met au point la première bombe atomique, qui se sentent légèrement coupables de la destruction de deux villes japonaises, et puis de la mise au point de cet engin de destruction terrifiant. Et en fait, ils expliquent que l'atome, c'est pas simplement ça, c'est aussi la clé de survie de l'humanité à très long terme. À très long terme, il y aura une transition énergétique parce qu'on aura épuisé tous les fossiles. Et donc, il faudra bien basculer vers autre chose. Et cette autre chose, ça sera le nucléaire. Si vous voulez, on voit très bien dans le graphique du bas, c'est ce futur-là qu'ils ont en tête. Vous voyez Alors, ce qui est important, c'est les abscisses, l'échelle, c'est de moins 5000 à plus 5000. Donc, sur 10 000 ans, vous regardez l'histoire énergétique de l'humanité sur 10 000 ans, les fossiles, ben, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ils seront épuisés à terme. Et on aura une transition totale vers un plateau énergétique infini que permet le surgénérateur nucléaire. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais c'est un type de réacteur très particulier qui a énormément fait fantasmer les promoteurs de l'atome depuis les années 70. Cette vision-là de l'énergie, elle est complètement marginale. Enfin, je veux dire, qui s'intéresse au futur de l'humanité dans 5000 ans ? En général, on s'en fiche un peu quoi, de ce qui va se passer dans 5000 ans. Bon, donc c'est vraiment une manière très particulière de concevoir le problème. Regardez aussi encore l'échelle temporelle. La fin des énergies fossiles, dans ce graphique-là, c'est à mi-chemin entre maintenant et 1000 ans. C'est dans 500 ans. Ça laisse le temps de voir venir. D'accord ? La transition énergétique telle qu'elle est pensée au départ, c'est quelque chose de pluriséculaire qui est poussé, tiré par l'épuisement des fossiles. C'est vraiment comme ça que ça émerge, cette idée de transition énergétique. Et elle va être propulsée comme terme et comme idée commune pendant la crise énergétique des années 70. Pendant la crise énergétique des années 70, alors le terme clé, c'est clairement crise énergétique, et ce qui est tout de suite accolé à crise énergétique, c'est transition énergétique. On a une crise énergétique liée au renchérissement du pétrole, liée aux événements au Moyen-Orient, la guerre du Kippour, et puis après à la révolution iranienne de 1979. On a des chocs pétroliers. Ben, on va faire une transition énergétique. Alors, transition énergétique, à ce moment-là, ça désigne en fait tout ce qui permet de réduire la dépendance au pétrole moyen-oriental. Donc, ça peut être plus de charbon. Pour Jimmy Carter, qui est le premier en fait, à parler de transition énergétique au grand public, c'est assez troublant, c'est un président américain directement, ça désigne plus de charbon. Pour certains, c'est plus de nucléaire. En tout cas, ça n'a pas grand-chose à voir, évidemment, avec le climat. Cette idée de transition énergétique, quand Jimmy Carter en parle, il fait référence à ce graphique-là, qui est un graphique qui m'a énormément intrigué. C'est un graphique tiré de son plan énergétique national de 1977. Alors, l'important, ce n'est pas tant le plan énergétique national, c'est la méthode. Vous avez une belle représentation de deux transitions énergétiques. Au début, aux États-Unis, en 1960, il n'y avait que du bois, ensuite, il n'y a eu que du charbon, et ensuite, il n'y a eu que du pétrole. L'astuce, c'est de tout mettre en relatif. Vous représentez non pas les énergies en valeur absolue, mais la part du charbon, la part du pétrole, la part du bois dans le mix énergétique, et vous arrivez à représenter des belles dynamiques comme ça qui paraissent très convaincantes. C'est un graphique original. Au même moment, on représente en général l'histoire de l'énergie de cette manière, avec des courbes qui s'accumulent. Et là, l'idée de transition énergétique n'est pas forcément ce qui vous vient à l'esprit si vous voyez ce graphique-là. Donc, méfiez-vous des représentations graphiques. Regardez toujours les abscisses, les ordonnées, les unités, très précisément. Souvent, un graphique, ça veut montrer quelque chose. D'accord ? Alors, justement, un graphique qui veut montrer quelque chose, en fait, ce graphique de Jimmy Carter, il avait été piqué à un scientifique italien que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est mort il y a peu de temps, qui, à mon avis, est un intellectuel clé derrière l'idée de transition énergétique. Il s'appelle Cesare Malchetti, et lui, c'est un prospectiviste, il veut prédire le futur de l'énergie, et il utilise une méthode, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, d'un modèle logistique, et ça lui permet de produire ces graphiques-là, qui sont magnifiques. On a l'impression, comme ça, que l'histoire de l'énergie est marquée par des courbes qui se succèdent. Il y a des sortes de vagues énergétiques. Il y a eu la vague du charbon dans les années 1900, ensuite la vague du pétrole. On sera en train de vivre la vague du gaz naturel et puis la vague future du nucléaire et de ce qu'il appelle solfus, donc fusion et énergie solaire. Ce graphique-là, il a fait réfléchir tout plein d'historiens, en particulier des vieux historiens ont été très marqués par ce graphique qui date de 1975. Alors, vous voyez, c'est à ce moment-là que cette idée de transition énergétique commence à mûrir et à se cristalliser dans l'expertise. Avant, aucun expert n'aurait eu le toupet de parler de transition énergétique au XXe siècle. Il savait très bien que tout n'avait fait que croître. Alors, Cesare Malchetti, il travaille dans un groupe de recherche qui s'appelle le IASA, et je veux que vous reteniez cet institut, ce nom d'institut. C'est un institut qui se trouve à pas loin de Vienne, qui avait été fondé en 1972, et c'est un institut, en gros, Est-Ouest. Il y a à la fois des savants du bloc soviétique et puis des savants du bloc de l'Ouest. Et l'idée, c'est une initiative de la détente. À un moment où, pendant la guerre froide, ça se passe un peu mieux. On va faire collaborer les scientifiques sur les grands problèmes, les grands enjeux internationaux. Et quels sont ces grands enjeux ? La crise énergétique et le changement climatique, dès le milieu des années 70. Au sein du IASA se met en place une pratique qui est la modélisation intégrée. C'est-à-dire, en fait, vous utilisez des ordinateurs pour imaginer ce qui est possible, quelles sont les trajectoires énergétiques possibles. C'est dans les années 70 qu'on crée ces modèles-là. C'est ces modèles-là qui sont toujours utilisés de nos jours Alors, il y en a plein d'autres maintenant, mais cela existe toujours, pour faire des scénarios net zéro. Pour faire les scénarios net zéro qui sont compilés par le groupe 3 du GIEC. Au départ, en fait, le groupe 3 du GIEC crée lui-même ses scénarios, ce qui posait un certain nombre de problèmes, mais c'était étroitement en relation avec les experts du IASA, qui étaient ceux qui savaient jouer avec des ordinateurs pour atteindre la neutralité carbone. Concrètement, c'est ça. Vous jouez avec différents curseurs pour montrer que c'est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, Chesa et Malchetti, en fait, il a eu l'expérience de, enfin, il a vécu l'émergence de cette pratique-là, et il faisait ça pour critiquer en fait cette manière de faire, en disant avec les ordinateurs, évidemment, on peut faire ce que vous voulez. Et lui, il voulait montrer l'inertie du système énergétique. La morale troublante de cette histoire, c'est quand vous regardez ces graphiques-là, vous voyez qu'il avait sous-estimé l'inertie du système énergétique. Pour lui, le charbon aurait dû quasiment disparaître dans les années 2020. Il s'avère qu'on n'a jamais consommé autant de charbon, et même que la proportion de charbon, elle est relativement stable depuis les années 80 à l'échelle mondiale. Donc la morale de l'histoire, c'est que le plus pessimiste des prospectivistes s'est avéré beaucoup trop optimiste sur la capacité de l'humanité à sortir des fossiles. Alors, cette affaire de transition énergétique, ça arrange tout le monde. C'est pour ça que ça tente de succès, au fond. Ça arrange d'abord les compagnies pétrolières, qui, dans les années 80, n'étaient pas encore climato-sceptiques. Exxon, à partir de 77, fait des recherches importantes sur le changement climatique. Et en 82, ils sont invités donc par un climatologue qui s'appelle Jim Hansen, que Exxon finance d'ailleurs. C'est troublant, hein. Jim Hansen est financé par Exxon. Jim Hansen, c'est un grand lanceur d'alerte sur le climat américain. En 88, c'est lui qui déclare au Sénat « le changement climatique a commencé ». Donc ça, vraiment, c'est une rupture importante dans dans l'alerte climatique. Edward David, le chef de la R&D d'Exxon, dit « évidemment qu'il y a l'effet de serre ». C'est de la vieille physique du 19e siècle, c'est pas intéressant. La question importante, c'est qu'est-ce qui va arriver plus vite, la transition énergétique ou bien la catastrophe climatique? Et c'est une manière très astucieuse de présenter le problème. Parce que les climatologues eux-mêmes l'ont présenté comme ça, en vérité. Ils s'abordaient leur propre alerte en parlant de transition énergétique. Ils disaient, en gros, le changement climatique, donc là, on est dans les années 70, il sera sensible dans les années 2000. On pourra le mesurer, le sentir même. Il aura des conséquences économiques en 2020, sur l'agriculture en particulier, et il sera catastrophique en 2070. Mais quand vous dites 2070, en 1970, ça paraît de la science-fiction. Et la suite du raisonnement, c'est ça va de soi qu'en 100 ans, on aura le temps de faire une transition énergétique. Donc vraiment, il y a eu une très grande naïveté grâce à cette idée de transition énergétique, qui a justifié une manière de dire, c'est gérable, on va gérer ça principalement par la technologie. La transition énergétique est aussi au cœur de l'économie du climat. L'économie du climat, elle émerge en 1975 à travers les travaux de William Nordhaus, un prix Nobel d'économie en 2018 pour ses travaux sur le changement climatique. Alors c'est vraiment intéressant de voir très précisément ce qu'écrit Nordhaus avant ses travaux sur le changement climatique. En 1973, il écrit un papier sur la crise énergétique et il dit « le pétrole coûte cher, on a peut-être de moins en moins de pétrole ». La réaction, j'ai envie de dire, naturelle dans cette classe, par des étudiants intelligents, ce serait de dire, on va essayer de limiter notre consommation de pétrole, vu que ça coûte cher, et vu que c'est rare. Et qu'a priori, le pétrole, c'est quand même utile, en particulier dans l'agriculture. On a intérêt quand même à y aller doucement. Ça paraît très logique. C'est que vous n'êtes pas un économiste. Vous seriez un économiste néoclassique, vous diriez, ah non, le pétrole, il faut le sortir maintenant, tant qu'il vaut cher. Parce que grâce à la destruction créatrice, grâce à Joseph Schumpeter et tous ses séides, c'est de dire, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la destruction créatrice, de la création destructrice, je mélange toujours, il ne faut pas sous-estimer ça. À la fin du XXe siècle, on aura des innovations qui rendront le pétrole obsolète. Donc, ce serait vraiment ballot de s'être privé du pétrole maintenant, tant qu'il est vachement utile et qu'il coûte cher. 2 ans plus tard, il écrit le premier papier, premier papier économique sur le changement climatique et il tient le même raisonnement, en disant, en gros, c'est... économiquement, c'est intéressant de rien faire maintenant et de repousser à plus tard la transition énergétique quand on aura les technologies disponibles. Et à cette époque, il a en tête le surgénérateur nucléaire. Et cette idée de transition énergétique, surtout, ça arrange les gouvernements. Quand la question du changement climatique émerge à l'échelle internationale un peu sérieusement, c'est dans la perspective du sommet de Rio de 1992 qui met en place toute l'infrastructure internationale sur l'UNFCC, la Convention de l'ONU sur le changement climatique. Le discours dominant, c'est celui du développement durable. C'est-à-dire, en fait, on peut réconcilier croissance économique et environnement grâce au développement durable. Et la transition énergétique est au cœur de cette affaire-là. Alors, dans les archives diplomatiques américaines, on voit à quel point cette affaire de transition énergétique, ça a essentiellement une fonction diplomatique et rhétorique. Le représentant américain à la conférence de Rio, c'est le monsieur avec la casquette qui s'appelle Robert Weinstein. C'est un Américain qui est ouvertement climato-sceptique, qui représente les États-Unis à la conférence de Rio, c'est intéressant. Et encore plus étrange, il est président du groupe 3 du GIEC. Donc vous voyez, le GIEC qui maintenant a acquis une image de paladin du climat, quand c'est créé, ça a une fonction très différente. Ça a la fonction de ralentir l'alerte climatique. Il y avait déjà une institution internationale qui s'occupait de changement climatique, qui était beaucoup plus catastrophiste, en disant qu'il faut réduire de 25% les émissions d'ici l'an 2000. Ça, c'est en 1985 qu'ils disent ça. Et donc, Robert Einstein va prendre ses ordres auprès du chef de cabinet de George Bush, John Sununu, et Sununu lui dit très clairement, à Rio, on s'engage à rien. On ne s'engage pas à des trajectoires d'émissions. On ne va pas non plus donner de l'argent s'il y a des dommages climatiques. Donc, no money, no target, play the technology card. Joue la carte technologique. Fait miroiter une transition énergétique. Ça fait entièrement sens quand on y réfléchit. Vous êtes les États-Unis, le représentant américain à Rio, de loin le premier pays émetteur à cette époque. La Chine n'avait pas encore connu son immense expansion économique. Première puissance technologique, c'est logique de faire miroiter des solutions technologiques. Et Play the Technology Card, c'est très précisément ce que le groupe 3 du GIEC a fait. Et j'ai envie de dire, en fait, la communauté scientifique qui s'est saisie de ces questions, puisque le groupe, soi-disant, le GIEC ne fait que résumer la littérature scientifique, c'est un peu plus compliqué que ça en vérité, mais la littérature scientifique est écrasée de discussions ultra-technologiques. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a plein de choses étranges. Par exemple, l'Hyperloop d'Elon Musk, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un train à suspension magnétique qui va fonctionner dans des tubes sous vide et qui va aller à 1000 km/h. Bon. C'est qualifié de technologie émergente. Enfin, ça émerge très très doucement, quoi, cette affaire-là. Et alors, donc ça c'est un graphique qui représente de quoi ça parle au fond ces rapports-là. Depuis 1992, ça parle essentiellement de technologie. Ça fait à peine commencer à parler de sufficiency, c'est-à-dire de sobriété maintenant, en 2022. Donc il a fallu attendre 30 ans pour qu'on commence à parler un peu sérieusement de ces questions-là. Et puis ça parle aussi de capture du carbone. De stockage souterrain du carbone, sachant qu'en gros, même en étant hyper technophile, même en poussant à fond les curseurs technologiques, n'importe qui d'un peu sérieux comprend bien qu'il y a plein de choses qu'on ne décarbonera pas. Pensez au trafic aérien. On ne sait pas décarboner les avions. Même le commerce maritime, très très compliqué à décarboner, ces gros bateaux, porte-containers, etc. Avec des batteries, parce que la batterie prendrait des places colossales. On peut penser au ciment, qui est très difficile à décarboner, voire impossible. L'acier, pareil. On peut penser encore au plastique. On peut penser à une bonne partie en fait, de la production de nourriture. Il faut savoir que le système alimentaire mondial, c'est un tiers des émissions. De la déforestation jusqu'à la gestion des déchets, 33% des émissions, c'est notre nourriture. On peut un peu serrer la ceinture, mais en mangeant moins de viande principalement. Mais on sait très bien qu'on ne va pas décarboner ça. Donc, vu que l'objectif, c'est d'arrêter le changement climatique à 2 degrés, qu'en s'en tienne, on va mettre tout plein de baguettes technologiques miracles qui consistent à récupérer le CO2 de l'atmosphère et à l'enfouir sous le sol. Technologie qui n'existe pas plus que les avions à hydrogène et les avions décarbonés. D'accord ? Et le groupe 3 du GIEC a joué un rôle important dans la promotion de ces options technologiques qui n'ont pas grand sens. Alors, quand on regarde non pas les scénarios net zéro, mais les scénarios de prospective de l'AIE, on voit que, il y aura une très grande transformation, c'est a priori l'essor des renouvelables. Le solaire, c'est une manière très peu chère de faire de l'électricité maintenant. Et donc on installe des immenses parcs solaires, en particulier en Asie, en Chine. Et donc ça joue un rôle, ça va avoir un rôle sur le système énergétique, ça va faire diminuer le charbon électrique. On aura besoin de moins de charbon pour produire de l'électricité dans le futur, et donc le charbon va diminuer a priori quand même. Il n'y a pas de raison qu'ils se trompent. Enfin, ils peuvent se tromper un peu, ils ont eu tendance à sous-estimer le charbon à l'AIE, mais a priori, ça va diminuer un peu dans les 20 prochaines années. Par contre, le pétrole et le gaz, vous voyez que c'est plutôt des plateaux. On n'est pas du tout sur dynamique de transition. Ce qui doit surprendre personne, parce que cette affaire de transition énergétique, c'est une notion qui n'est pas du tout scientifique. C'est un slogan qui a acquis un prestige incroyable, alors que c'est fondamentalement un slogan. Ce qu'on fait avec les renouvelables, c'est qu'on diminue l'intensité carbone de l'économie, ce qui n'est pas la même chose que faire une transition énergétique. On a besoin d'émettre moins de carbone pour rendre un même service économique. Voilà, donc je sais pas, ça fait 50 minutes que je parle, il faut que je m'arrête, mais tout ça pour vous dire que, si vous voulez, la transition énergétique, ça projette une histoire fausse sur un futur qui reste encore largement problématique et largement à construire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut revenir aux questions, on peut aussi en prendre d'autres dans la salle. Oui, comme ça, c'est plus simple. D'accord. Alors, les trois questions, il y en avait une, donc c'était sur Jean Covici. Alors, Jean Covici, comment dire, moi, je ne le connais pas personnellement, enfin, je l'ai croisé quelques fois. Il a plutôt bien mûri, j'ai envie de dire, parce qu'au début, c'était effectivement principalement le nucléaire qui était son cheval de bataille, et maintenant, ça s'est beaucoup élargi. Donc, il y a toujours le nucléaire, mais il y a aussi la décroissance, qui est assez rare pour des personnes qui ont une grande audience médiatique. Même s'il y a Dominique Méda dans la salle, c'est vrai que Jean-Marc Jancovici a quand même beaucoup d'audience, et donc il a joué un rôle important dans, si vous voulez, une forme de rationalisation un peu quand même, et de matérialisation de ces questions que je trouve plutôt positive. Voilà. Et en plus, maintenant, sur les renouvelables, il est moins critique, parce que de fait, les renouvelables ont aussi beaucoup progressé. C'est vrai qu'au début des années 2000, objectivement, les renouvelables, ça coûtait encore très cher. Donc il s'est passé quelque chose d'important. Voilà. Après, le nucléaire... Sincèrement, tout le monde sait très bien que ce n'est pas ça qui va nous tirer d'affaire, et Jean Covici le sait très bien aussi. Tout simplement parce que le nucléaire, ça représente une toute petite partie de l'énergie mondiale. Ça ne représente même pas une grosse partie de l'électricité mondiale. Combien il y a d'entreprises qui sont capables de construire du nucléaire sur la Terre? Très peu, en fait. Il y a très peu d'entreprises qui savent faire des centrales nucléaires. Et construire une centrale nucléaire, c'est énormément d'investissements, ça prend très très longtemps. Donc en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se généraliser et se développer à la vitesse de l'éclair, comme il faudrait agir maintenant sur les gaz à effet de serre. Voilà. Et puis, une fois encore, ça c'est le truc de base, le nucléaire, ça sert que à faire de l'électricité. L'électricité, c'est 40% des émissions. Donc moi, sur ces 40% des émissions, à la limite, on peut parler de transition sur ces 40%. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis, mais ça peut faire sens, parce qu'effectivement, on a des manières de faire de l'électricité décarbonée. Mais ça fait longtemps qu'on sait faire de l'électricité décarbonée. Les barrages hydroélectriques. On a commencé par faire de l'électricité décarbonée, que je cherche, avec des barrages hydroélectriques. Hein. Donc vraiment, c'est, si vous voulez, c'est un peu une erreur de confondre l'électricité et toute l'économie mondiale, et tout le CO2, ça n'a vraiment rien à voir. Quoi. Voilà pour le nucléaire. Le nucléaire ne sert pas à grand-chose pour manger, par exemple. Je pense qu'on sera d'accord avec ça. A priori, ce n'est pas hyper utile. Et la bouffe, c'est 33% des émissions. Donc là, c'est autre chose. Quoi. Alors, il y avait deux autres questions sur le progrès technologique. Je crois que j'ai un peu répondu. Évidemment qu'il y a plein de progrès technologiques. Je veux dire, et c'est parce qu'on connaît les progrès technologiques du passé qu'on comprend que ce qu'on est en train de faire maintenant, ce n'est pas si révolutionnaire. Vous parliez des LED. Quelqu'un a mentionné les LED. Dans le slide, il y avait écrit LED. Alors, les LED, c'est un très bon exemple. Les LED, c'est absolument merveilleux. On transforme quasiment toute l'électricité en lumière maintenant, alors qu'avant, les ampoules, évidemment, elles chauffaient beaucoup. Donc, c'est extrêmement, en termes de performance, c'est absolument merveilleux. Ça pose plein de problèmes aussi. Premièrement, effet rebond. Le résultat, vu que l'électricité, il y a quand même une part qui est encore faite à partir de fossiles, en gros, les émissions liées à la production de lumière, elles stagnent depuis les années 2000, malgré les LED. Parce qu'on produit de plus en plus de lumière, évidemment. Et puis le deuxième truc, c'est que pour être aussi efficaces, les LED, elles sont quand même beaucoup plus compliquées à construire. Elles mélangent plein de matières, plein de métaux qui sont après impossibles à recycler. Et donc, ça se paye, la performance. Ça se paye dans des objets plus complexes, qui sont des alliages plus complexes, qui font qu'ils sont beaucoup moins recyclables, voire impossibles à recycler. À l'inverse d'une bonne vieille lampe à filament qui était quand même beaucoup plus simple. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est sur les LED. Bah, toujours sur le progrès technologique, je vais être rapide. Dans les années 1920, j'en ai déjà parlé, l'électrification est un immense progrès technologique. Et c'est un immense gain d'efficacité. Ça divise par 10 l'intensité carbone de la force mécanique dans les usines par rapport aux machines à vapeur. Un moteur électrique, c'est beaucoup plus efficace, évidemment. De nos jours, avec les renouvelables, on divise par 10 l'intensité carbone de l'électricité. Donc on n'est pas en train de vivre une telle révolution technologique que tout change maintenant. C'est pas vrai. Et puis les voitures électriques, par contre, ça ne divise pas du tout par 10 l'intensité carbone de la mobilité. Ça divise par 2, 3 au mieux, parce qu'une voiture, c'est d'abord une grosse masse d'acier. Et donc, c'est une grosse masse de charbon. Voilà. Et il y avait une dernière question, mais je n'arrive plus à m'en souvenir.
C'était sur les technocrates et la technocratie.
Ah oui, est-ce qu'ils y croient? Alors, je pense que... non, ils n'y croient pas. Je pense sincèrement que pas grand monde n'y croit, c'est ça le problème. À part peut-être quelques doux rêveurs en sciences sociales, mais personne n'y croit un peu, à mon avis, sérieusement. Quoi. C'est-à-dire, on pense... Enfin, moi, j'avais été frappé d'une fois, j'avais fait une conf à Supaéro où il y avait des gens d'Airbus, mais ils ne croyaient pas une seconde qu'il y aurait des avions à hydrogène qui voleraient de leur vivant. Pas une seconde. Enfin, en tout cas, des gros avions, etc. Il y aurait peut-être des petits avions qui feraient 100 km, mais ils ne croyaient pas du tout qu'il y aurait des avions qui traversaient l'Atlantique avec de l'hydrogène. Quoi. Donc non, je pense qu'on n'y croit pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard critique de sciences sociales sur ce discours-là. Quoi.
Et est-ce que vous vous intéressez donc à des potentielles solutions ou...
Alors, en fait, je crois qu'il faut arrêter de penser en termes de solutions parce que ça nous fait dire des bêtises. Le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on résoudra avec une solution ou même des solutions. C'est une grande naïveté de poser le problème comme ça, je pense. On peut ralentir le changement climatique, et là, il y a des solutions pour ralentir le changement climatique qui sont les mêmes que celles dont tout le monde parle, mais ce n'est pas quelque chose qu'on arrêtera. Ouais, je crois que c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre l'ampleur de ce qu'on va vivre dans les prochaines décennies, quoi. Pour les raisons dont je vous ai déjà parlé. La nourriture. Voilà, a priori, même dans une société utopique, on aura besoin de se nourrir et donc on continuera de travailler les sols et ça relâche du CO2, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, hein, il faut sortir de cette illusion de on va arrêter le changement climatique. Et je pense que c'est important de le faire parce que ça permet d'avoir une discussion beaucoup plus concrète, beaucoup plus politique sur qu'est-ce qu'on réduit, qu'est-ce qu'on peut réduire. Mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est des transitions énergétiques, à quoi ça sert? Ça sert à nous faire croire, à nous maintenant, que dans 20 ou 30 ans, on aura résolu le problème, technologiquement, principalement. Et donc, on pourra avoir le même genre de croissance, le même genre de société, le même genre d'économie, sans attenter au climat. Parce qu'on sera entièrement déconnecté du carbone. C'est une profonde illusion technologique. Mais si on dit que, non, évidemment qu'il y aura du CO2 dans l'économie en 2050, y compris dans les pays riches, la question clé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce CO2, quoi ? Est-ce que c'est du CO2 vital ? Je sais pas... des céréales, des choses utiles, de manière, des médicaments par exemple. Hein. Les médicaments, c'est complètement branché sur l'industrie chimique. Bon, voilà, ça ne sera pas décarboné, c'est pas vrai. Ou est-ce que c'est avoir du tourisme international à tout va, quoi. Je pense que c'est ça en fait le genre de question que le changement climatique pose. Est-ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je pense que c'est important de pas se leurrer, quoi, de pas se leurrer sur ce qu'on peut faire technologiquement.
Voilà, il nous reste encore quelques minutes donc pour passer aux échanges aussi avec la salle. Si possible, comme on n'a pas non plus un temps infini, essayer de poser des questions qui soient assez brèves pour que toutes les prises de parole qui le souhaitent puissent poser leurs questions.
Merci. Oui, deux petites questions. Sur la part de l'agriculture ou l'alimentation, donc à peu près un tiers. Dans ce tiers, je pense qu'il y a pas mal une grosse part sur la production d'engrais. Si on diminue les engrais avec une agriculture plus vertueuse, on résout peut-être une partie du problème. La deuxième question, c'est sur la production, la consommation de charbon, en valeur absolue ou en valeur relative. Est-ce que dans ce qui a été présenté en termes de charbon énergie, le charbon dédié, qui est matière première pour l'acier, est inclus dedans ou est-ce que c'est en plus ?
Voilà. C'est inclus. C'est inclus, oui. Alors, sur la première question, oui, on peut faire mieux. Enfin, je veux dire, une fois encore, on peut faire plein de progrès, y compris dans l'agriculture. Maintenant, il faut voir qu'il y a des arbitrages. Si vous utilisez moins d'engrais, vous perdez en rendement, donc vous avez besoin de plus de surface en général. Donc ça a des effets aussi en termes de changement d'usage des sols, qui sont un facteur important des émissions de l'agriculture. C'est le changement d'usage des sols, hein, qui est important aussi. Là où il y a vraiment beaucoup à gagner, c'est sur la consommation de viande. En gros, la moitié des céréales qu'on produit, c'est pour nourrir des bêtes qu'on mange. Et le rendement est très mauvais. Quand vous passez par la bête, vous perdez énormément en rendement par rapport à manger directement la céréale. Donc là il y a un... C'est là où il y a la plus grosse marge de manœuvre de très loin, quoi. Voilà. Après, une fois encore, enfin, moi, je suis en train de travailler là-dessus. Quand on regarde à quel point notre agriculture est en fait une coproduction de la pétrochimie, c'est absolument ahurissant, quoi. Il y a tous les engrais. Il y a les engrais azotés, c'est connu. Hein, il faut du gaz naturel pour récupérer l'hydrogène, du gaz naturel pour faire la synthèse de l'ammoniac. Donc ça, c'est les engrais azotés. Mais même les engrais phosphatés. Qui viennent des roches de phosphate, en fait, ils sont attaqués à l'acide sulfurique. Or, d'où vient le soufre maintenant ? Ça vient uniquement des raffineries qui désulfurisent le pétrole. Donc, même les engrais phosphatés, en fait, pourquoi il y en a beaucoup depuis les années 60 ? Parce qu'il y a beaucoup de pétrole et de gaz. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Donc, vraiment, l'énorme dépendance, et puis après, l'agriculture est une grosse consommatrice de plastique. Tout le système alimentaire dépend de l'acier inoxydable. Toute la transformation, c'est des machines en acier inoxydable qui font ça. Ça dépend de l'acier, etc. Apparemment, il y a une très, très forte dépendance de notre biologie aux fossiles. Et je crois que c'est important pour être encore plus exigeant sur les autres secteurs qui sont quand même moins importants que la nourriture, parce que quand même, la nourriture, a priori, on n'a pas envie de... Voilà, donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur ce qu'on peut vraiment décarboner, quoi, en termes... Et la deuxième question sur le charbon, oui, ça incluait l'acier. Alors, ça explique pourquoi, par exemple, certains pays, vous savez, ne consomment plus de charbon pour faire de l'électricité. Dans le sens, ils ont fait une sorte de transition hors du charbon pour le système électrique. Ça, c'est vrai. C'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, en Suisse, depuis longtemps d'ailleurs. Bon, est-ce que ça veut dire que des pays comme l'Angleterre, la France ou la Suisse, leur mode de vie ne dépend pas du charbon ? Non, pas du tout. Pour le cas de la France ou l'Angleterre, quand on regarde leurs importations, on peut estimer qu'il y a eu besoin de, consommer 50 millions de tonnes de charbon pour produire les importations d'ordinateurs ou je ne sais quoi qu'on fait venir d'Asie principalement. Bon. 50 millions de tonnes de charbon, c'est pas rien. La consommation, le pic d'extraction, c'est pas le même que consommation en France dans les années 60, c'est 60 millions de tonnes. Pour l'Angleterre, c'est beaucoup plus, c'est 200 millions de tonnes. Donc on peut dire que l'Angleterre, elle, a beaucoup diminué son empreinte charbon, si vous voulez. Ça, c'est exact. Voilà. Le cas de la Suisse est intéressant. Pays prospère, un PNB par habitant double de celui de la France. Est-ce que la prospérité suisse est déconnectée du charbon ? Pas du tout. La prospérité suisse, c'est lié à son intégration dans une économie globale qui carbure au charbon. Et en plus, en Suisse, il y a deux entreprises, Trafigura et Glencore, qui sont des immenses multinationales des énergies minérales. Trafigura, c'est la première entreprise de négoce de matières premières, qui profite directement, évidemment. Enfin, une bonne partie du commerce du charbon, si vous voulez, ça se fait en Suisse. Et Glencore possède des mines de charbon dans le monde entier. Donc, en fait, de fait, même les pays qui sont parfaitement extraits du charbon, comme la Suisse, partie de leur prospérité dépend encore de cette bonne vieille énergie, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien se méfier de ces articles tonitruants qu'on trouve souvent. L'Angleterre consomme moins de charbon qu'en 1660, avant que le charbon commence. Bah, forcément, il consomme presque plus de charbon pour l'électricité. Mais le mode de vie anglais, parce qu'il y a de l'acier aussi, dépend en fait du charbon.
Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Récemment, Philippe Aguillon a été récompensé d'un prix Nobel d'économie. C'est un grand défenseur de Schumpeter et de ses théories. Et on voit qu'il a une visibilité de plus en plus grande de ces courants économiques, alors que vous, à côté, vous montrez l'inanité de ces théories. Comment vous expliquez cette prépondérance, alors même en plus qu'on a vu récemment dans des études que le soi-disant backlash écologique est réservé, apparemment, d'après notamment quelques journaux anglais, à une élite politique qui se sépare d'une vision du grand public qui, elle, n'est pas dans cette dimension-là. Et donc, il y a une espèce de schisme qui se produit.
Ça, c'est deux bonnes questions qui sont liées, effectivement. Et je pense que c'est le lien qui est intéressant, en fait, entre une vision de plus en plus technologique et une discussion de moins en moins démocratique de ces questions environnementales. Je pense qu'il y a un lien, en fait. Alors, sur Aguillon... Alors, quand il parle de croissance économique et de destruction créatrice, moi, je ne suis pas expert de ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu simpliste d'un point de vue d'histoire des techniques. Il y a beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai vu les écrits, alors pas tant d'Aguillon, mais de Paul Romer, qui est le même genre de personne qui a aussi un prix Nobel d'économie pour sa théorie de la croissance endogène. Mais c'est exactement la même école. Il y a un nombre de bêtises en termes d'histoire des techniques ahurissant, quoi. Il confond, par exemple, la date d'apparition des techniques et la date d'usage réel des techniques. Donc ils vont vous dire l'électricité c'est fondamental en 1900. Non, objectivement l'électricité c'est pas important du tout en 1900. L'électricité c'est important maintenant. Voilà. Donc ça c'est vraiment une erreur de base, j'ai envie de dire, d'historien des techniques, que beaucoup d'historiens des techniques font, mais voilà, donc ils font ce genre d'erreur. C'est quand ils se mettent à parler d'environnement que là ça devient, enfin le caractère idéologique se voit énormément, quoi. Parce qu'évidemment la destruction créatrice ça ne marche pas du tout pour les matières premières, quoi. Donc c'est sûr que ça ne marche pas pour l'environnement. Et pourtant, ils veulent parler d'environnement. C'est ça qui est troublant. C'est-à-dire, Paul Romer, quand il a eu le prix Nobel, c'était un co-récipiendaire avec Nordhaus. Et donc, Paul Romer a parlé du changement climatique en disant la solution, c'est la destruction créatrice. Et là, il racontait des bêtises, mais scandaleuses, quoi. Vraiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que le prix Nobel d'économie, vous oubliez, ça n'a aucune importance scientifique. Voilà. C'est pas sérieux, quoi. C'est strictement idéologique, en fait. C'est déprimant, mais... C'est très énervant, mais c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça, il faut vraiment râler. Mais franchement, quand on voit ça, on se dit ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Joël Mokyr, qui a eu aussi le prix Nobel d'économie, qui est un historien. C'est, parmi les historiens, il n'est pas très bien considéré. Hein, parce que justement, il a une vision où, en gros, toutes les transformations, c'est lié l'industrialisation, etc. Il en fait une histoire très intellectuelle. C'est le système des brevets en Angleterre. C'est ce qu'il appelle la sphère publique technologique, donc les revues technologiques en Angleterre. Je ne dis pas que ça n'a aucun rôle, mais est-ce que vraiment c'est ça qui explique l'industrialisation ? Non. C'est les mines de charbon et les mineurs qui sont en train d'extraire du charbon à coups de pioche. C'est ça qui fait l'industrialisation. Voilà, fondamentalement. D'accord ? Donc, voilà, je pense qu'il y a, un vrai souci quand même sur cette école de pensée-là, effectivement. Et le fait que ça soit très écouté par certains décideurs, j'ai envie de dire, c'est intéressant pour ce que ça veut dire des décideurs. Moi, ce qui me frappe, c'est souvent on a une vision de la question écologique comme si vous voulez, le problème, c'est le peuple, quoi. Si on écoutait une élite technocratique éclairée, tout se passerait pour le mieux, mais il y a le peuple qui ne veut pas. Et en fait, les rares expériences qu'on a montrent l'inverse. C'est ce que vous disiez, le backlash écologique, il a surtout lieu dans les milieux économiques. À Davos, on ne se met plus du tout à parler de changement climatique alors qu'avant on en parlait, etc. La Convention citoyenne pour le climat de 2019, c'est une expérience intéressante. Vous prenez des gens au hasard, vous les formez sur ces questions climatiques. Le rapport qui en sort, enfin les préconisations qui en sortent sont intéressantes. Et ce n'est pas du tout des avions à hydrogène et la capture du carbone. C'est on va réduire tout de suite la vitesse sur les routes. Alors c'est sûr, ça ne nous amène pas à net zéro. Hein, ce n'est pas suffisant. Mais rien n'est suffisant de venir sur cette question-là. Mais en tout cas, ça va directement dans le bon sens et c'est applicable tout de suite maintenant. C'est efficace tout de suite maintenant. On interdit la publicité pour les voitures dans la presse. Intéressant aussi. Vous voyez, c'est parce qu'évidemment qu'il s'agit de changer aussi un imaginaire pour réduire vraiment les émissions. C'est pas que on va électrifier tout le parc automobile et tout va bien se passer. Non, il faut réduire la place de l'automobile drastiquement. Bon. Et malheureusement, ces propositions n'ont pas été reprises.
Oui, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question aussi. C'est qu'à prime abord, concernant donc, l'exploitation des ressources énergétiques, donc on a l'intuition de penser qu'on accélère dans cette exploitation pour la survie donc des hommes et des sociétés des hommes. Mais lorsqu'on regarde de plus près avec cet effet de symbiose énergétique, donc j'ai l'impression de comprendre qu'on commence à exploiter plus, juste pour exploiter plus les différents matériaux. Donc par exemple le charbon pour exploiter le pétrole et le pétrole pour le charbon. Mais est-ce que ce serait juste une question de performance et du discours politique ou ce ne serait pas que l'humanité est rentrée dans une période de perdition de sens de ce qu'il fait exactement, de but, de finalité ou même de responsabilité?
Vous dites de manière beaucoup plus élégante ce que je disais d'un point de vue très trivial. Quoi. Oui, il faudrait se poser la question de l'utilité du CO2 et donc l'utilité de plein de choses qu'on produit. Quoi. Et je pense que cette question de l'utilité, elle n'est pas du tout suffisamment présente dans la discussion politique. Quoi. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir cet immense écran pour vous approcher des images qui sont moyennement intéressantes, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on se pose beaucoup plus. Quoi. Est-ce que c'est vraiment bien que... Je sais pas, j'ai mon fils qui est au collège, et même à l'école primaire déjà, toutes nos interactions passent par une plateforme numérique. Est-ce que vraiment c'est nettement mieux que... Résultat, ils sont tout le temps sur le téléphone portable. Donc, est-ce que vraiment... C'est un progrès. Et donc, je crois que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Quoi. Est-ce qu'on est persuadé que l'IA, ça va drastiquement améliorer la condition humaine ? On peut en discuter quand on entend que c'est déjà utilisé par des armées, etc. Franchement, enfin, voilà, effectivement, c'est vraiment la question importante. Ouais. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la question du changement climatique nous la matérialise. Parce qu'en fait, ça se quantifie bien. Quoi. C'est-à-dire, on s'est fixé des objectifs, atteindre la neutralité carbone avant 2050-2060. Pour faire ça, il faut réduire de manière absolument dramatique les émissions de CO2. Bah, on commence par couper ce qui ne sert pas à grand-chose, quoi. Et même ce qui est des fois nocif.
Bonjour. Est-ce que dans notre monde qui est basé vraiment sur la compétition, notamment entre toutes les nations, est-ce que ces nations peuvent vraiment envisager de décroître, parce que s'ils décroissent unilatéralement, est-ce que c'est vraiment possible sans que ces nations se fassent complètement, excusez-moi pour mon vocabulaire, mais bouffées par ces autres nations.
Alors, c'est sûr que la montée des rivalités géopolitiques, alors c'est catastrophique de plein de points de vue, et c'est aussi catastrophique pour le climat. C'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir... Est-ce qu'il y avait une idée, enfin, l'idée assez banale au fond de dire, on dépend des puissances fossiles, la Russie et le Moyen-Orient, et donc il faut se décarboner pour. C'est vrai, mais ça marche pour les techniques, on sait décarboner, pour l'électricité, après le reste, même si on veut se décarboner, c'est très compliqué. Donc, de fait, notre dépendance aux fossiles et la montée des rivalités géopolitiques n'implique pas nécessairement qu'on va diminuer drastiquement nos consommations de fossiles. Et c'est sûr que dans un monde de rivalités fortes, la décroissance n'a plus aucune audience. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si depuis 2022, on parle beaucoup moins de ces questions de changement climatique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quoi. Ça joue un rôle vraiment important. Donc, oui, je suis d'accord, dans ce monde-là, c'est encore plus utopique. Quoi. Et puis autre chose aussi, il faut savoir que sans aller jusque-là, mais si vraiment, enfin, comment dire, l'industrie de l'armement sera, avec la bouffe et l'aviation, sans doute la dernière chose qu'on décarbonera. Parce que l'enjeu des militaires, c'est là, pour le coup, d'être performant, pas d'être efficace et d'être économe en énergie. C'est pour ça qu'il y a une tendance intrinsèque du fait militaire à l'exubérance énergétique. Vous prenez un chasseur, ça consomme des milliers de litres de kérosène par heure. Ce que je veux dire, c'est juste des consommations dont on n'a pas idée, quoi. C'est-à-dire, en fait, des années d'usage d'une Clio à essence, oui, en une heure. Voilà. Donc ça, historiquement, ça se renseigne assez bien. On peut montrer à quel point l'histoire de technique militaire a poussé le développement technique dans une certaine direction qui est catastrophique pour l'environnement. On a plein d'exemples de cela. Les engrais azotés dont vous avez parlé, c'est très connu, ça servait d'abord à faire des explosifs. Les pesticides, c'est d'abord des gaz de combat qu'on va recycler ensuite comme pesticides dans l'économie civile, parce qu'en fait, c'est les mêmes genres de molécules qui tuent les insectes et qui tuent les humains, en fait. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait des transferts de technologie. Mais plein d'autres choses. La pêche, par exemple, elle est révolutionnée par des techniques qui sont étroitement liées au fait militaire. Les filets en nylon, le nylon, ça sert d'abord à faire des parachutes, ensuite des filets. Les sonars, ça sert d'abord à détecter des sous-marins avant de détecter des bancs de poissons, etc. Donc ça, c'est un point important. C'est effectivement, même si en termes nominaux, les armées émettent pas tant de CO2 que ça, ne serait-ce parce que en fait, l'armée française est toute petite, en fait, il n'y a pas tant de tanks, il n'y a pas tant de camions militaires, l'histoire longue de l'armement a eu tendance à infléchir les techniques dans une direction, même si sans doute qu'on aurait fini par faire des engrais azotés sans la Première Guerre mondiale. Quoi. Parce que la question de la fertilisation des terres se posait massivement à la fin du 19e siècle en Europe de l'Ouest.
Bonjour. Oui. J'avais une question moi, sur votre vision du rôle financier des acteurs du monde financier dans la création de ce modèle et comment ils pouvaient influer maintenant pour... Alors peut-être pas faire la transition énergétique, mais en tout cas aller vers moins d'émissions de CO2. Et si les acteurs politiques actuellement étaient en capacité de se détacher en fait, de cette influence financière.
Alors je ne suis pas du tout compétent sur ces questions-là, pour être parfaitement clair. Après, en termes théoriques, l'idée classique, c'est de dire on va faire du divestment. On va sortir des fossiles et donc on va... par attrition, si vous voulez, provoquer la mort de l'industrie fossile par absence de financement. C'était l'idée derrière l'accord de Paris. On annonce des objectifs très forts de décarbonation, les financiers suivent et ça va tuer l'industrie fossile par attrition. Alors, c'est souvent plus compliqué, malheureusement, sur le terrain. Un exemple assez amusant, c'est le cas de Ørsted. Vous connaissez Ørsted, c'est l'ancienne entreprise, c'est l'ancienne Dong, c'était une entreprise danoise d'énergie fossile qui pompait du pétrole en mer du Nord, qui en 2017 sort entièrement des fossiles et investit uniquement dans les éoliennes. Donc ils ont fait un divestment, mais les actifs de Dong, ils ont été rachetés. Ils n'ont pas fermé. Ils ont été rachetés par des entreprises comme Shell en particulier, qui est beaucoup plus forte pour sortir du pétrole et du gaz que Dong. Et récemment, Shell a annoncé qu'ils allaient en fait relancer des puits de pétrole grâce à ces stations de pompage sous-marine au fond des mers, qui est encore une prouesse technologique incroyable de l'industrie pétrolière. Donc vous voyez, ces affaires de divestment, ça dépend en fait à qui on revend les actifs. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier simplement, dire on va faire du divestment et tout va bien se passer, ça ne va pas marcher comme ça. Quoi. Un autre problème, c'est que l'industrie fossile, bah, si elle est très lucrative, elle peut aussi s'autofinancer en grande partie. Elle n'a pas forcément besoin d'autres acteurs financiers. Donc ça, c'est la deuxième fragilité. Après, comment dire, ça va dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas non plus dire que ça ne sert à rien. Je pense que c'est bien de renchérir le coût de financement des centrales à charbon, par exemple. C'est sûr que c'est positif. Hein. Ça rend le charbon moins compétitif et donc, a priori, on en fera un petit peu moins. Mais c'est ce que vous dites. Il ne faut pas prétendre que ça va résoudre le truc. Bah, non, ça va peut-être dans le bon sens, effectivement. Mais je ne suis vraiment pas assez sachant là-dessus pour vous répondre de manière plus... Mais quand même, à chaque fois, pour cette affaire de climat, c'est vraiment fondamentalement une affaire de matière, de flux de matière. Et je crois que c'est toujours important de revenir un peu au substrat matériel, quoi, avant de fantasmer trop sur des infrastructures financières. Quoi.
Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces questions, ces réponses aux questions. Jamais donc 203, encore une fois, un immense merci, cher Jean-Baptiste.
Merci beaucoup.